Donc cette conférence va encore une fois être enregistrée. C'est pour cela d'ailleurs qu'on met tout en place, que c'est un petit peu compliqué, on est très timide vis-à-vis des techniques de pointe. Voilà. Tu es prêt? Ça marche? Bon, écoutez, ce soir nous avons le plaisir d'écouter une conférence qui nous sera donnée par Caroline Terkem, qui travaille maintenant à l'Institut d'astrophysique déjà depuis, le temps passe vite, donc je risque de me tromper, mais ça fait à peu près un an et demi, c'est ça? Voilà. Donc Caroline travaille sur les planètes, les exoplanètes, la planétologie, et va nous parler ce soir des planètes errantes. Donc je m'arrête là, simplement je garde le micro, et après la conférence, je vous demanderai de poser des questions, d'attendre que je vous passe le micro afin que vos questions soient également enregistrées. Merci.
Merci. Alors, je ne sais pas vous, moi j'ai une longue journée, donc j'aimerais autant que ce soit aussi informel que possible. Donc si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à me les poser au fur et à mesure. C'est mieux que de toutes les garder pour la fin, d'autant que vous risquez de les oublier. Je vais essentiellement utiliser ce rétroprojecteur, je ne sais pas si tout le monde voit. Sans ça, je peux le faire pivoter un petit peu. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre de planètes errantes? Les Grecs avaient appelé les planètes planètes, ce qui veut dire en grec errant, parce qu'elles bougeaient assez rapidement sur la voûte céleste par rapport aux étoiles. Et aujourd'hui encore, vous allez voir que les planètes extrasolaires, donc celles qu'on a découvertes au cours des 6 dernières années, errent également pas mal et font également errer les astrophysiciens d'ailleurs. Donc ce dont je vais vous parler ce soir, c'est je vais essayer de vous expliquer un petit peu avec les mains comment les planètes se forment, comment les étoiles se forment et comment les planètes interagissent ensuite avec l'environnement dans lequel elles se forment. Toute cette dynamique qui produit les caractéristiques des orbites qu'on observe aujourd'hui. J'ai pas mal utilisé ces sites web que j'ai mentionnés ici. Ici, il s'agit d'une image virtuelle, ce que vous pouvez voir depuis la surface d'une planète extrasolaire. Ces deux sites ici contiennent des images de ce genre. Et ces deux sites ici sont des sites scientifiques. Ça, c'est un site qui se trouve à l'Observatoire de Paris à Meudon. Celui-ci, c'est à l'Université de Californie. Donc, il contient tout un tas d'informations sur les planètes extrasolaires, y compris des cours, en fait. Donc, si vous êtes intéressé par plus de détails, vous pouvez toujours aller consulter ces sites. Alors depuis à peu près 4 siècles et demi, on sait que la Terre n'est pas au centre de l'univers. En fait, certains l'avaient proposé déjà dès l'Antiquité, mais en fait, c'est essentiellement depuis Copernic qu'on sait que la Terre n'est plus au centre de l'univers. Et depuis à peu près 6 ans, on sait que la Terre n'est presque certainement plus unique. On n'a pas encore découvert de planètes telles que la Terre, mais on a découvert des planètes telles que Jupiter. Donc en fait, en 4 siècles et demi, on est passé d'une situation où on était au centre de l'univers à une situation où on est sur un rocher, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui orbite une étoile, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme il y en a des centaines de milliards dans notre galaxie. Une galaxie qui, elle aussi, n'est qu'une galaxie parmi des milliards dans l'univers. Donc, vous voyez, on a été détrônés. Alors, il y aurait de quoi déprimer, mais alors, en fait, on est très contents, terriblement excités par tout ça, pour deux raisons. La première, évidemment, c'est que quand on parle de planète, on parle de vie. Et pour pouvoir détecter la vie extrasolaire, peut-être faut-il d'abord passer par des planètes extrasolaires. Bon, je vous rassure tout de suite, on n'a pour le moment aucune indication que la vie extrasolaire existe, mais enfin, c'est un premier pas. Et puis, on est content aussi parce que finalement, pour comprendre le processus de formation de la Terre, il faut peut-être observer des systèmes planétaires en formation. Si vous prenez un martien, par exemple, enfin un martien ou un extraterrestre, vous l'emmenez sur Terre, et mettons qu'il ait une durée de vie de 5 minutes. Ça correspond à peu près à la durée de vie humaine par rapport au temps d'évolution du Soleil. Et vous lui demandez de se faire une idée sur la façon dont évolue l'espèce humaine. Qu'est-ce qu'il va faire en 5 minutes ? Eh bien, il va prendre un enfant, il va prendre un adulte et il va prendre un vieillard. Il va pouvoir voir en comparant les trois individus qu'ils appartiennent à la même espèce et en regardant les différences, il va pouvoir se faire une idée de la façon dont l'espèce évolue. Ben, finalement, on fait la même chose avec les étoiles, on fait la même chose avec les planètes, on fait la même chose avec les galaxies, on fait la même chose avec tout ce qui se trouve dans l'univers. On ne peut pas regarder l'évolution des astres en temps réel, donc en fait, on les prend à des époques différentes et à partir de là, on arrive à faire une histoire et à expliquer leur évolution. Donc, pour pouvoir comprendre comment la Terre s'est formée, ça nous aiderait bien de voir des systèmes planétaires en formation. Alors, juste un petit récapitulatif sur les planètes du système solaire. On distingue deux groupes de planètes dans le système solaire. On a ici les planètes intérieures et ici les planètes extérieures. Donc là, vous avez dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre et Mars, puis Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Pluton est un petit peu un cas particulier, c'est pas évident que ce soit réellement une planète. On pense souvent que c'est, on pense plutôt que c'est un objet de la ceinture de Kuiper. Alors entre Mars et Jupiter, vous avez ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Et au-delà, aux confins du système solaire, vous avez ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper et les comètes, donc dans lesquelles vous avez tout un tas d'objets qui sont beaucoup plus petits que la Terre. Alors, la Terre se trouve à une unité astronomique du Soleil. Une unité astronomique, c'est à peu près 150 millions de kilomètres. Donc ce sera réellement ce soir notre longueur de référence. C'est important de réaliser ce que c'est qu'une unité astronomique pour bien comprendre la suite. Donc le fait que ce soit 150 millions de kilomètres, c'est peut-être pas très important, mais le fait que ce soit la distance de la Terre au Soleil, ça c'est important, ça nous donne réellement une référence. Jupiter, quant à elle, se trouve à 5 unités astronomiques. Ça aussi c'est important parce que toutes les planètes qu'on a découvertes juste à présent ont des masses de l'ordre de Jupiter ou même de l'ordre de Saturne, qui se trouve à peu près 10 unités astronomiques. La taille du système solaire est d'à peu près 40 unités astronomiques si on va jusqu'à Pluton, 30 unités astronomiques si on s'arrête à Neptune, c'est-à-dire à peu près 30 fois la distance Terre-Soleil. Donc ça vous donne une idée de la dimension des systèmes auxquels on s'intéresse quand on fait de la physique planétaire. Alors les planètes du système solaire ont des tailles extrêmement différentes selon que vous regardez à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ici, vous avez le Soleil, tout ça, c'est à l'échelle. Ici, vous avez Mercure, Vénus, la Terre et Mars, puis Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus et Pluton. Donc il n'y a pas de doute, les planètes géantes sont effectivement géantes comparées aux planètes qu'on appelle telluriques, que sont les planètes qui sont situées à l'intérieur du système solaire. Donc dans notre système solaire, les planètes à l'intérieur sont petites. D'autre part, je reviendrai là-dessus, ce sont des planètes qui sont essentiellement constituées de roches, qui sont relativement denses, alors que les planètes géantes sont au contraire constituées essentiellement de gaz, en tout cas pour Jupiter et Saturne. Alors, avant qu'on découvre des planètes extrasolaires, évidemment, ce à quoi on s'attendait, c'était à trouver des choses similaires. C'est toujours comme ça, on connaît quelque chose, on a tendance à extrapoler. Donc, autant vous dire qu'on a été surpris par la première découverte en 1995, c'était la planète autour de l'étoile 51 Pegasi. Cette planète est à peu près aussi grosse que Jupiter, mais elle est 20 fois plus près du Soleil que ne l'est la Terre du Soleil. Elle est 100 fois plus près du Soleil que ne l'est Jupiter du Soleil. Et ça, c'était tout à fait inattendu. Alors en fait, les théories pour expliquer cette particularité existent depuis à peu près 20 ans, mais pour des raisons qui sont difficiles à comprendre aujourd'hui, les théoriciens finalement n'ont pas sauté le pas et n'ont pas osé prédire ce qu'on pouvait trouver autour d'autres systèmes. C'est d'autant plus dommage que les théories en question ont été testées sur les anneaux autour des planètes, par exemple. Et il ne faisait aucun doute que les théories étaient valables. Donc finalement, il est difficile de comprendre pourquoi les théoriciens n'ont pas fait des prédictions sur ce qu'on s'attendait à trouver autour des étoiles. Mais d'une certaine manière, les observations ont donné raison à la théorie a posteriori. Alors voilà toutes les planètes qu'on a détectées à ce jour. À ce jour, c'est-à-dire à ce jour d'aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui ont été annoncées il y a à peu près 3 semaines. Il y en a une cinquantaine. J'ai commencé à travailler sur les planètes il y a à peu près 3 ans. Il devait y en avoir une dizaine. On arrivait à toutes les mettre sur une feuille sans aucun problème. Et on arrivait à lire sans aucun problème. Alors ici, évidemment, il ne s'agit pas de lire tout ce qui est décrit. Ici, on a les étoiles, le nom des étoiles. Et ici, on a toutes les planètes. Donc, elles sont placées en fonction de leur distance à l'étoile autour de laquelle elles orbitent. Donc ici, on a une unité astronomique. C'est l'endroit où se trouve la Terre. Le système solaire n'a pas été représenté, malheureusement, ici. 2 et 3 unités astronomiques. Les nombres ici correspondent aux masses des planètes. Alors, vous voyez qu'il y a énormément de planètes qui sont extrêmement proches de leur étoile. La plus proche est à peu près 0,04 unités astronomiques, c'est-à-dire c'est plus de 100 fois, ou moins de 100 fois la distance entre le Soleil et Jupiter. Une unité astronomique, c'est ici. On a également des planètes qui orbitent à cette distance-là de leur étoile. Et puis, on a qui orbite plus loin. Alors, encore pour mémoire, Jupiter serait ici. C'est à Jupiter que nous devons comparer ces planètes, essentiellement. Jupiter serait ici. Mercure sera à peu près ici, à 0,4 unités astronomiques. Vénus, 0,7, la Terre, 1, et Mars, 1,5. Alors, il y a des systèmes multiples. Le premier qui a été découvert, c'est Upsilon Andromède, ici, qui contient 3 planètes. Il y en a un qui vient d'être annoncé, c'est celui-ci, Gliese 876. Il est important pour des raisons dont je reparlerai tout à l'heure. Les deux planètes sont en fait verrouillées par des effets de marée. Et puis, ce système aussi, qui répond au doux nom de HD 168-443, contient 2 planètes, dont une qui fait 17 masses de Jupiter. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, je reviendrai dessus plus tard. Donc, essentiellement, ce qu'il faut retenir de ce graphe, c'est que vous avez des planètes, beaucoup de planètes, très proches de leur étoile, et puis, vous en avez un petit peu partout. Alors, comment est-ce qu'on détecte ces planètes ? C'est important de comprendre ça parce que ça vous explique les biais observationnels qu'il y a quand on s'intéresse à ces objets. Si vous avez un système qui est constitué d'une étoile et d'une planète, on dit que la planète tourne autour de l'étoile, mais l'étoile également tourne autour du centre de masse du système. Le Soleil, par exemple, tourne autour du centre de masse du système solaire. Alors si presque toute la masse est située dans l'astre central, le centre de masse est très proche du centre de masse, donc le mouvement est très petit. Ici, ça a été très exagéré, mais le centre de masse du système est en fait très très proche de l'étoile. N'empêche, l'étoile tourne autour du centre de masse. Elle tourne autour du centre de masse, et nous, on est capable de mesurer des spectres en provenance de cette étoile. Il y a certains éléments qui émettent des raies à la surface de cette étoile. On est capable de mesurer, de recevoir ces raies, et on est capable de mesurer leur fréquence. D'autre part, on sait à quelle fréquence doit émettre un élément donné. Dans nos laboratoires, on peut faire ce genre de mesures. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'un objet qui est en mouvement voit ses raies d'émission décalées à cause de l'effet Doppler. C'est comme si vous êtes sur un quai de gare, il y a un train qui passe, quand le train s'éloigne, le bruit devient plus grave, parce que les fréquences sont déplacées à cause du mouvement. Ben ici, c'est la même chose. Quand l'étoile vient vers nous, nous on est ici, quand l'étoile se déplace dans notre direction, les raies qu'elle émet sont déplacées vers des longueurs d'onde plus courtes, donc vers le bleu. Alors que quand elle s'éloigne de nous, les raies qu'elle émet ont une longueur d'onde déplacée vers le rouge. Donc ça, c'est l'effet Doppler, on peut le mesurer, on voit, quand on reçoit le spectre de l'étoile, on peut mesurer le décalage spectral, et ayant le décalage spectral, on peut mesurer la vitesse de rotation de la planète autour du centre de masse. Donc on mesure cette vitesse. Elle oscille avec une période qui est égale à la période orbitale du système. Et connaissant la période orbitale du système, on utilise les lois de Kepler pour en déduire la distance entre l'étoile et la planète. Une fois qu'on a la distance entre l'étoile et la planète, on peut calculer la masse de la planète à partir de l'amplitude de la vitesse qu'on a mesurée. Alors, il y a quand même un petit bémol ici, c'est que ce qu'on mesure très exactement, c'est la projection de la vitesse sur la ligne de visée. Le décalage Doppler, il est dû au fait que la planète vient vers nous ou s'éloigne de nous. Mais ça n'est pas du tout sensible au mouvement de la planète perpendiculairement à notre ligne de visée. Donc la seule information qu'on ait réellement, c'est l'information sur la vitesse le long de la ligne de visée. Donc la masse qu'on mesure, c'est en fait une masse projetée. C'est-à-dire ce qu'on mesure, ce n'est pas exactement la masse de la planète, mais c'est la masse de la planète fois le sinus d'un angle, qui est l'angle entre la ligne de visée et la perpendiculaire au plan orbital. Comme le sinus d'un angle est toujours plus petit que 1, ce qu'on mesure, c'est en fait plus petit que la masse de la planète. Donc comment peut-on être sûr que les objets qu'on a détectés ont bien des masses de l'ordre de la masse de Jupiter, ou 10 fois celle de Jupiter ? Après tout, on pourrait dire que sinus I est très petit, donc ce qu'on mesure, c'est très petit, mais la masse réelle est beaucoup plus grande. Alors quand Pegasi 51 a été détecté, c'était la première planète, c'est évidemment tout de suite ce que les gens ont dit. Maintenant, on a quand même une cinquantaine de planètes. Et sur une cinquantaine de planètes, on peut faire des statistiques. Il se peut que dans un cas, on ait un angle de visée très particulier, c'est-à-dire qu'il nous donne un sinus I très petit, mais on ne peut pas avoir un angle particulier sur 50 planètes. Statistiquement, ce n'est pas tenable. Donc pour des raisons statistiques, on sait que la masse des planètes qu'on détecte est quand même pas très différente de la masse projetée. Bon, cela dit, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait encore des sceptiques. Il y en a toujours d'ailleurs, j'en connais au moins 2. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé en 99 et qui, là, franchement, nous a convaincus, si vous en étiez, qu'il s'agissait bien de planètes. Il y a eu un transit. Alors ça, vous avez peut-être vu, c'était à la une de certains journaux. C'est en novembre 1999 que ça a été observé. Ça a été à la une des journaux à ce moment-là, ou en janvier, je ne sais plus, quand le papier a été écrit. Bon, toujours est-il, ça, c'est une vue d'artiste, hein, évidemment. C'est pas ce qu'on a vu. Mais enfin, ça représente un transit. Un transit, c'est, vous voyez, la planète passer devant l'astre. Alors, comment est-ce qu'on détecte un transit? Évidemment, on ne voit rien, on ne voit pas la planète. Simplement, vous voyez une baisse de luminosité de l'étoile. Vous recevez un certain flux, il y a une baisse de la luminosité. La baisse de la luminosité, ici, est de l'ordre de 1%. C'est des choses qu'on peut détecter. La baisse de la luminosité est périodique. D'autre part, c'était une planète qui, par ailleurs, avait été observée avec la méthode des vitesses radiales que j'ai présentée précédemment. Donc on connaissait sa période grâce à la méthode des vitesses radiales. Or ici, on a observé le transit avec la même période que celle déduite de l'effet Doppler. Donc il s'agit bien de la même chose. Alors qu'est-ce que nous a apporté ce transit? Une chose extrêmement importante, si vous voyez un transit, c'est que vous regardez le système par la tranche. Donc le sinus I ici est égal à 1. Donc la masse projetée, c'est bien la masse de la planète. Dans ce cas, c'est une masse qui fait à peu près les deux tiers de celle de Jupiter. D'autre part, on a pu mesurer la dimension de cette planète. Alors, il s'agit d'une planète qui est à peu près 60% plus grande que Jupiter. Donc, on peut calculer sa densité. Elle a une densité qui est à peu près un cinquième de celle de l'eau. Donc, il s'agit d'une planète essentiellement gazeuse. D'autre part, on a pu mesurer tout un tas de détails intéressants. Par exemple, quand vous regardez la baisse de luminosité, elle n'est pas discontinue. Elle arrive progressivement, donc vous voyez l'effet de l'atmosphère qui commence par occulter l'étoile avant le reste de la planète. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu qu'on parlait bien de planètes. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces planètes? Toutes les planètes qui ont été détectées. Ici, on représente la masse de la planète en fonction de... Non, pardon, le nombre de planètes pour une masse donnée. Donc ici, par exemple, pour le nombre de planètes qui ont une masse comprise entre 0 et une masse de Jupiter, c'est à peu près 20 et quelques. Ici, toujours, il s'agit de masse projetée, hein, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de planètes avec des masses relativement faibles que de planètes avec des masses élevées. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir expliquer avec les théories de formation des planètes. Alors, il y a autre chose qui est très intéressant aussi dans ces observations, c'est l'excentricité des planètes. Les planètes du système solaire, dans l'ensemble, sont sur des orbites circulaires. Il n'y a que Mercure qui a une excentricité de 0,2, mais pour toutes les autres planètes ont des excentricités inférieures à 0, à part Pluton, encore une fois, c'est un cas particulier. Donc les planètes du système solaire, c'est celles que vous voyez ici en vert. Enfin, c'est la Terre ici. Je ne sais pas ce que c'est ça. Les autres points ici, ce sont les excentricités des planètes extrasolaires en fonction de leur distance à l'étoile centrale. Donc à une unité astronomique, pour les planètes qui orbitent à une unité astronomique de leur étoile, vous avez des excentricités qui peuvent atteindre des valeurs extrêmes comparées à ce qu'on trouve dans le système solaire, c'est-à-dire 0,8 par exemple. 0,8, rendez-vous compte, ça, vous avez des variations de la distance à l'étoile qui atteignent 80%. Toutes les planètes qui sont très très proches de leur étoile centrale ont des excentricités presque nulles. Ça, c'est des choses qu'on comprend bien, hein, c'est ce qu'on appelle la circularisation par effet de marée. Je ne vais pas en parler, mais enfin, c'est à cause de l'interaction gravitationnelle entre l'étoile et la planète. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Les modèles vont devoir expliquer ce genre de choses. Alors, si vous regardez des planètes comme Pegasi 51, puisque je parlerai tout à l'heure un petit peu de la vie extrasolaire, c'est évidemment pas une planète sur laquelle il ferait bon vivre, hein. Voilà quelques vues d'artistes de ce que pourrait être Pegasi 51, la température y est 2300 degrés. Alors, compte tenu de ce que je vous ai raconté sur les méthodes de détection, on se rend bien compte qu'on est biaisé observationnellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas détecter des planètes de faible masse, et on a d'autant plus de mal à détecter des planètes qu'elles sont loin de l'étoile, parce qu'à ce moment-là, la vitesse de l'étoile autour du centre de masse est faible. Donc, observationnellement, forcément, on va trouver des planètes très massives près de l'étoile. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à la limite, peu importe, le fait est que ces planètes sont là et existent. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir, d'une certaine manière, on ne sait pas si ces systèmes-là sont représentatifs, on ne sait pas si... On a trouvé des planètes qu'autour de 6% des étoiles pour le moment, dans les 94% des cas qui restent. Est-ce qu'on a des planètes sur des orbites plus lointaines? Est-ce qu'on a des systèmes comme notre système solaire, ou est-ce qu'on n'a rien du tout? On n'en sait rien. Mais indépendamment de cette question, le fait est qu'on a ces planètes-là, et que les théories de formation des planètes ne permettaient pas d'expliquer les caractéristiques orbitales de ces planètes. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la façon dont on pense que les planètes se forment, ce qui se passe après qu'elles se soient formées. Donc je vais en fait vous dire un petit peu ce qu'on sait et beaucoup ce qu'on ne sait pas. Alors, il y a une notion dont je vais avoir pas mal besoin au cours de cet exposé, c'est la notion de moment cinétique. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, donc je vais passer quelques minutes à expliquer ce que c'est que le moment cinétique. Le moment cinétique, en gros, si vous prenez, dans le cas le plus simple, vous prenez une particule qui a un mouvement de rotation autour d'un axe, peu importe hein, ce que ça représente. Donc, vous prenez une particule ici, de masse m, qui se déplace le long d'un cercle, par exemple, à la distance r. Le moment cinétique de cette particule, on le définit comme étant la masse fois la distance à l'axe fois la vitesse. Ce moment cinétique, on peut aussi le voir comme étant l'air balayé par unité de temps. C'est-à-dire, pendant un intervalle de temps unité, la masse va se déplacer d'ici à ici. Elle va balayer cet air. Alors, ce qui est important avec ce moment cinétique, si vous voulez, c'est un peu comme le principe, il y a un principe de conservation en physique qui vous dit que si vous n'exercez pas une force, si vous n'exercez pas de force qui ne passe pas par l'axe de rotation, le moment cinétique est conservé. Bon, d'une manière plus simple, c'est comme si vous essayez de fermer une porte. Si vous avez une porte qui est ouverte, pour la fermer, vous pouvez toujours pousser dessus, il ne va rien se passer. Ici, vous exercez une force dont la droite d'action passe par l'axe de rotation. Pour faire bouger la porte, il faut que vous la poussiez comme ceci. Et la force que vous exercez ne coupe pas l'axe de rotation de la porte. D'accord ? C'est le seul moyen que vous ayez de changer le moment cinétique de votre porte. Donc c'est pareil en fait pour tous les systèmes en physique. Il faut pouvoir exercer une force adéquate. Donc si vous avez simplement une force de gravitation, si ici vous tournez autour... Si vous avez la Terre ici qui tourne autour du Soleil, la force de gravité, elle est radiale, donc elle coupe l'axe de rotation, donc le moment cinétique est conservé dans ce cas. D'accord ? Donc voyez-le comme le fait que l'air ici, que vous décrivez quand vous tournez pendant une unité de temps, est toujours la même, ou alors raisonnez avec cette quantité-là, je ne sais pas ce qui est le plus simple pour vous, ou alors vous avez également le fait que ça, c'est égal à le moment d'inertie fois la vitesse de rotation. Alors, ce moment cinétique, c'est ça qui fait qu'un patineur qui tourne avec les bras étendus, lorsqu'il ramène les bras vers lui, va tourner de plus en plus vite. Simplement parce que son moment cinétique est conservé, et il a un moment d'inertie plus important quand il a les bras tendus que quand il a les bras resserrés. Donc, pour compenser, il est obligé d'accélérer. C'est ce qui fait aussi que... Si vous voulez faire une pirouette à la piscine... Si vous vous élancez droit comme ça et que brusquement vous ramenez vos jambes vers vos bras, vous allez effectuer une pirouette. De la même manière, vous diminuez votre moment d'inertie, donc vous êtes obligé d'accélérer pour compenser, de tourner, votre vitesse angulaire est obligée d'augmenter. Donc ça, c'est ce que je disais à propos du patineur. Si vous fermez vos bras, vous tournez plus vite. Alors, comment se forment les étoiles ? En fait, la raison pour laquelle je commence par ça, c'est qu'on pense que les planètes se forment toujours en même temps que les étoiles, plus ou moins. Ce sont deux processus qui se passent simultanément. Donc, ce n'est pas possible de parler de la formation des planètes indépendamment de la formation des étoiles. Alors ici, pour vous montrer les échelles, vous avez une galaxie du genre de notre galaxie. C'est une galaxie spirale. Hein. Vous voyez ces bras spiraux. À l'intérieur de ces bras spiraux, vous avez ce qu'on appelle des nuages interstellaires. Alors, pour les dimensions, vous avez quelque chose ici qui est de l'ordre de 10 à 100 kg par sec. Un parsec, c'est à peu près 200 000 fois une unité astronomique, c'est 200 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, 100 kg par sec, c'est 100 000 fois 100 000 fois, ça fait beaucoup. Un nuage interstellaire, donc tel que ceux que vous trouvez dans les bras spiraux des galaxies qui ont cette allure-là, a une dimension de l'ordre de 10 parsecs. Donc ça fait à peu près 1 million de fois la distance entre la Terre et le Soleil. À l'intérieur de ces nuages interstellaires, vous trouvez ce qu'on appelle des cœur dense. Ce sont des nuages plus denses. Ce sont eux qui vont s'effondrer pour donner naissance aux étoiles. Ces cœurs denses ont une dimension de l'ordre de 0,1 parsec, c'est-à-dire à peu près 10 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et c'est à l'intérieur de ces cœurs denses que vont naître les étoiles. Donc je vais revenir un peu plus en détail là-dessus, mais en gros, vous vous retrouvez avec un disque, tel que celui qui a entouré le Soleil lors de sa formation et dans lequel les planètes se sont formées. Et puis vous avez également des jets qui sont émis depuis les régions centrales de ce disque. Donc la distance d'un système comme ça, c'est à peu près entre 100 et 1000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et puis vous allez dissiper le disque, les jets vont s'arrêter et vous allez vous retrouver avec des étoiles qui sont évidemment beaucoup plus petites. Donc ça, c'est pour les grandes lignes. Alors avant de commencer avec le reste, pour vous reposer un peu, je vais montrer des diapos. Alors d'abord, je dois vous dire que je suis pas, je fais pas d'observations, je ne connais pas grand-chose aux observations, donc ne me posez pas de questions sur le détail des observations, parce que je ne saurais pas y répondre. Alors voilà, comme je ne fais pas d'observations, j'ai pensé qu'il fallait quand même qu'il y ait une partie observationnelle à mon exposé. Donc ça, c'est la partie observationnelle. Il s'agit de l'observatoire du Pic du Midi. Ça n'a rien à voir avec ce dont je vous parle, mais comme je viens des Pyrénées, ben, j'avais envie de montrer ça. Je ne peux pas éteindre ici. Il faut que je puisse lire mes notes quand même. Voilà, donc la suivante. Mais en fait, je peux les faire passer, non ? C'est celui-là. Donc ça, c'est le télescope spatial Hubble. Donc c'est celui qui a pris énormément d'images que je vais vous montrer, des images de nébuleuses qui sont absolument extraordinaires. Ça fait une dizaine d'années qu'il est en service. Il a réellement révolutionné l'astrophysique. Voilà, alors ça, c'est une image de galaxie spirale telle que celle que je vous montrais tout à l'heure. Je ne saurais pas vous dire de laquelle il s'agit, mais peu importe, de toute façon, elles se ressemblent toutes. Voilà, là, il s'agit d'une nébuleuse. Alors, celle-là, c'est la nébuleuse du serpent qui se trouve à peu près à 7000 années-lumière de la Terre, c'est-à-dire que la lumière met 7000 ans pour nous en parvenir. C'est une région de formation d'étoiles. Alors, ce que vous voyez ici, les structures que vous voyez au centre, ça, ici, c'est une image très célèbre que je vais vous montrer juste après, donc qui se trouve dans la nébuleuse du serpent. Alors ici, l'émission que vous observez, en fait, c'est vous avez tout un tas de nuages, d'étoiles que vous pouvez voir ici, qui sont relativement jeunes, relativement chaudes. C'est la luminosité de ces étoiles, enfin le rayonnement de ces étoiles, qui ionise le gaz environnant, et c'est l'émission de ce gaz ionisé que vous percevez. Alors ici, en fausse couleur, probablement, je ne sais pas exactement à quelle longueur d'onde ça a été pris, mais donc on appelle ça une nébuleuse en émission. Et c'est une région de formation d'étoiles, vous avez des régions qui sont plus ou moins obscures, ce sont des nuages de poussière. Alors si on fait un zoom... Voilà, donc ça, c'est la nébuleuse de l'aigle, effectivement, qui est située à l'intérieur de la nébuleuse du serpent. Donc ça, c'est probablement des images que vous avez déjà dû voir, mais on ne s'en lasse pas. Donc toujours, la dimension ici, cette dimension-là, c'est à peu près une année-lumière. C'est-à-dire, ça fait à peu près 100 000 fois la distance de la Terre au Soleil. Alors, qu'est-ce qui a produit ces formes? En fait, c'est que vous avez des étoiles ici, par là, qui sont chaudes et qui émettent pas mal dans l'ultraviolet, qui photoionisent le nuage. Donc le nuage a tendance à s'évaporer, d'une certaine manière. Mais vous avez des régions plus denses à l'intérieur de cette nébuleuse qui, elles, ne sont pas faciles à photoévaporer. Donc une fois que vous avez dissipé la partie plus fine autour, vous vous retrouvez avec ces structures ici qui sont relativement denses. Et à l'intérieur de ces structures, vous avez des régions encore plus denses dans lesquelles se forment des étoiles. Alors celle-là, c'est Rho-Fucus. Donc ici, c'est une étoile en fait qu'on voit qui est surexposée. Je suis Je suis désolée, je ne vous mets pas à l'aise, mais ça m'empêche de parler. Voilà, donc ça c'est un nuage, une région de formation d'étoiles également. Ça, c'est une, si je montre cette image, c'est parce que c'est en fait une région qui est extrêmement étudiée. Alors ensuite, on a... La tête de cheval. Donc celle-là aussi, elle est relativement connue. Donc elle est située dans Orion, elle est à 1500 années-lumière de chez nous. Donc le rouge que vous voyez ici, c'est de l'hydrogène qui a été ionisé par des étoiles relativement chaudes. Et ici, ce que vous voyez en silhouette, en fait, c'est un nuage moléculaire qui est situé sur l'avant de la nébuleuse et qui absorbe en fait la luminosité qui vient, le rayonnement qui vient derrière. C'est pour ça qu'il apparaît sombre. Et il y a des points lumineux, ici on ne les voit quand même pas très bien, qui sont en fait aussi des étoiles en formation. Donc ça, c'est la même chose, vu avec des couleurs différentes. Alors ça, c'est la nébuleuse d'Orion, c'est l'une des nébuleuses les plus étudiées hein, en formation des étoiles. Donc c'est celle-ci, on la voit à l'œil nu dans le ciel. Ici, vous avez les étoiles du trapèze qui photoionisent le reste de la nébuleuse. Ici, vous voyez, vous avez des sortes de plumes en fait, qui sont le résultat d'éjection de matière par des étoiles en formation. Alors, c'est dans cette nébuleuse en fait, qu'on a vu les premiers disques qui se forment autour des étoiles en formation. Mais comme je ne vous ai pas encore parlé des disques, je vais m'arrêter là pour les photos pour le moment. Donc ici, ce qu'on a vu, en gros, ça correspond à ces nuages interstellaires. Et puis, des cœurs plus denses, comme on a pu voir, par exemple, dans les piliers de la nébuleuse de l'Aigle. Alors, comment se forment les étoiles, rapidement? Vous commencez avec un nuage interstellaire dans lequel vous avez un cœur plus dense. C'est ce nuage qui, lentement, se contracte sous l'effet des forces gravitationnelles. Vous avez deux forces essentiellement qui sont en jeu ici. Vous avez les forces de pression et vous avez la force gravitationnelle. La force de pression empêche le gaz de se contracter. C'est les forces de pression qui font que l'atmosphère ne tombe pas dessus. Et puis, vous avez les forces gravitationnelles qui, au contraire, tendent à faire se contracter le nuage. Donc, quand les forces gravitationnelles deviennent suffisamment importantes, vous vous contractez et la densité dans le cœur augmente. Vous formez une étoile au centre du nuage, je vais très schématiquement, hein. Vous formez une étoile dans le centre du nuage, ici vous avez le reste du nuage qui continue à s'effondrer, et puis en même temps vous avez de la matière ici qui est éjectée par des mécanismes qui sont relativement compliqués et sur lesquels beaucoup de gens travaillent. Alors ici on n'a pas encore vu un disque, ça correspond à divers stades d'observation. Tout ça, ce sont des objets qu'on observe ici dans le domaine sublimétrique. On ne voit pas l'étoile qui est au centre. Ici, on voit l'étoile maintenant et on voit un excès infrarouge qui vient d'une composante étendue et froide autour de l'étoile. Cette composante étendue et froide, c'est le disque. Pourquoi un disque? Pourquoi est-ce qu'on forme un disque? Alors, l'idée du disque, elle remonte en fait au XVIIIe siècle. Déjà, Kant et Laplace avaient observé que les planètes étaient toutes plus ou moins coplanaires et donc ils se sont dit il y a quelque chose, il y a eu un disque. Les théoriciens, en fait, ont vu ça aussi beaucoup plus tôt que les observateurs, précisément à cause du problème du moment cinétique. Ces nuages dont je vous parle, ils sont en rotation. Ils ont des rotations qu'on peut mesurer. On observe tout un tas de choses, des raies en particulier à l'intérieur de ces nuages. Si vous prenez un nuage qui a une dimension de l'ordre de 0,1 parsec, et que vous le contractez sur des échelles 10, 100, 1000 fois plus petites, d'après ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir que ça accélère normalement. D'accord, hein, c'est comme le patineur. Vous diminuez la taille, il faut accélérer. Si vous vouliez mettre tout le moment cinétique du nuage dans une étoile comme le Soleil, il faudrait que le Soleil tourne à des vitesses complètement inimaginables. Alors, d'une part, on ne l'observe pas, d'autre part, ce serait instable, les forces centrifuges seraient telles que la matière serait renvoyée loin du Soleil. Donc, on sait que ce n'est pas ça qui se passe. La seule façon de s'en sortir, c'est de mettre une partie de la matière loin de l'étoile. C'est-à-dire qu'au lieu de tout mettre au centre du nuage, on met une partie de la matière dans un disque qui entoure l'étoile. Ici, on ne le voit pas, il est encore caché par le nuage qui est autour, mais il est là. Alors, Quelle est la quantité de masse dans ce disque? Ça encore, ce sont des choses qu'on ne sait pas très bien, parce qu'a priori, vous prenez une seule particule, vous la mettez à une distance infinie de votre étoile, vous conservez le moment cinétique. Donc le fait qu'il y ait un disque pour conserver le moment cinétique ne contraint pas complètement les caractéristiques du disque. Mais enfin, peu importe, on sait qu'on a un disque. Alors ce disque, il est formé essentiellement de poussière et de gaz. Ce que j'ai représenté en bleu ici, c'est le gaz. Ce que j'ai représenté en rouge, c'est la poussière. Il contient surtout du gaz. Il contient en masse simplement 1% de poussière. C'est très peu. C'est très peu, mais c'est ça qui va donner les planètes. Donc c'est complètement essentiel. Le disque se dissipe progressivement au fur et à mesure que le système évolue. Il se dissipe de plusieurs manières. D'une part, vous avez une partie du matériel qui glisse lentement en spiralant sur l'étoile centrale. D'autre part, vous avez agglomération de poussière pour former des objets tels que des astéroïdes qui ensuite vont donner des planètes qui vont éventuellement devenir des planètes géantes. Alors, les échelles de temps, si vous prenez l'instant t égale 0 au début de l'effondrement gravitationnel, ce système-là dure à peu près 10 000 ans, ça c'est la période pendant laquelle vous avez encore de la matière qui tombe pour former le système, mais vous avez déjà une étoile plus ou moins formée. Ici, vous avez une période encore où il y a pas mal d'activités, vous avez de la matière qui continue à tomber, vous avez des jets qui sont émis, de la matière qui s'en va dans des jets, mais enfin, vous avez quand même, vous voyez l'étoile et vous voyez un disque clairement autour de cette étoile. Ça, c'est une phase, à ce moment-là, l'étoile a à peu près 100 000 ans. Ah, tout ça, c'est extrêmement jeune, hein. 100 000 ans pour nous, c'est rien. Et puis, les jets cessent. La création sur le disque cesse aussi au bout de quelque chose comme 1 million d'années. Et au bout d'à peu près 100 millions d'années, vous vous retrouvez avec votre système formé et votre étoile va atteindre la séquence principale, c'est-à-dire qu'elle va devenir suffisamment chaude et dense pour que vous puissiez avoir des réactions nucléaires qui vont générer l'énergie qui font que cette étoile va pouvoir vivre. Parce que jusqu'à présent, votre étoile, elle ne génère pas d'énergie pareille. Enfin, la seule énergie qu'elle a, c'est l'énergie thermique qui vient de l'effondrement gravitationnel. Donc ça n'est pas encore réellement une étoile, on appelle ça une proto-étoile jusqu'à ce stade. Alors ces disques, on les a extensivement étudiés pendant une trentaine d'années. Avant de les voir directement, on les a observés plus ou moins indirectement il y a à peu près une vingtaine d'années. Maintenant, on les voit directement. Alors, j'ai des photos, justement. Les tout premiers disques qu'on a observés, c'était il y a 6 ans, en 96. Voilà. Je peux vous dire que la première fois qu'on a vu cette image, c'était impressionnant. Donc ça, c'est une image du Space Telescope aussi. C'est un disque vu en silhouette dans la nébuleuse d'Orion. Les dimensions ici sont de l'ordre de la centaine ou plusieurs centaines d'unités astronomiques. Donc ce que vous voyez au centre, c'est l'étoile. Et là, vous voyez le disque en silhouette sur la nébuleuse. Donc il absorbe le rayonnement qui vient par derrière. Donc vous le voyez en silhouette. Ici, vous les voyez, ça, ce sont des disques que vous voyez de profil. Donc ici, l'étoile est complètement cachée par le disque. Ici, vous voyez quand même l'étoile. Mais le disque est également vu de profil. Donc, ce sont des disques qui sont relativement épais. Hein. Depuis, on a quand même vu des structures beaucoup plus fines et beaucoup plus évoluées. Ça, ce sont des disques qui sont encore relativement jeunes. Alors, je vous parlais de G aussi. Voilà. Alors, ça, ce sont des observations plus récentes. Ici, vous voyez un disque vu par la tranche. Et ces deux structures ici, c'est en fait la lumière de l'étoile qui est réfléchie à la surface du disque. Vous ne voyez pas le disque, hein, il absorbe la luminosité de l'étoile, mais vous voyez ici la lumière réfléchie. Et vous voyez les jets qui sont émis par des parties centrales du disque. Ici, regardez, vous avez un jet qui est absolument extraordinaire. Donc l'étoile est à peu près ici. Et elle émet ce jet qui semble d'ailleurs précessé. Il n'est pas toute droit. Donc, cette longueur-là vaut à peu près 1000 unités astronomiques. Donc, ça, c'est 1000 unités astronomiques. Donc, vous pouvez voir que ça, c'est gigantesque. Hein. On parle de choses qui sont absolument gigantesques ici. Donc, ces jets sont observés absolument communément. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que tout ce dont je vous parle ici, en fait, vous le voyez autour d'autres objets. Vous le voyez autour des étoiles en formation. Mais vous le voyez aussi autour des galaxies, des noyaux de galaxies. Vous avez un disque galactique, vous avez un trou noir en son centre, et vous avez des galaxies extrêmement actives pour lesquels vous voyez exactement ce même genre de structure. Donc c'est quelque chose qui se répète à d'autres échelles d'énergie et de taille. Voilà. Alors, ici on a une vue d'artiste d'un disque. Donc en gros c'est comme ça qu'on peut se représenter l'étoile. Ici vous avez l'étoile qui vient de se former, et puis ici vous avez de la matière avec de la poussière, etc. et des choses qui se sont agglomérées pour donner ce qui va devenir des planètes. Alors, comment est-ce qu'on obtient des planètes à partir de tout ça? Dans ce disque, je vous ai dit, vous avez à la fois du gaz et des poussières. Le gaz peut rester relativement haut dans le disque parce qu'il est sensible aux forces de pression. De la même manière que l'atmosphère, l'air qui est en haut de cette pièce ne nous tombe pas dessus parce qu'il y a des forces de pression. Les grains de poussière, par contre, eux, ne sont pas soumis à des forces de pression. Donc, ils ont tendance à tomber vers le plan médian du disque, parce que c'est là que les entraîne la gravité. Donc, vous avez tous ces grains de poussière, ici, qui sont répartis dans le disque et qui sont entraînés par la gravité vers le plan médian. Ils vont sédimenter autour du plan médian. En sédimentant, ils vont grossir parce qu'il va y avoir des collisions, et donc leur taille va augmenter. Vous avez des grains qui, ici, sont à peu près... ont une taille de l'ordre du micron, c'est-à-dire un millionième de mètre. Quand ils arrivent dans le plan médian, ils ont une taille de l'ordre du centimètre. Avec les collisions, ils ont grossi jusqu'à d'un facteur à peu près 10 000. Alors, qu'est-ce que c'est que ces grains de poussière, en fait? Ces grains de poussière, ce sont des éléments relativement lourds dont la température de condensation est élevée. C'est-à-dire qu'aux températures qui sont caractéristiques des disques dans ces domaines-là, hein, autour de l'unité astronomique, les températures sont faibles, hein, c'est de l'ordre de 100 Kelvin à peu près. Donc les éléments tels que les sulfures, les métaux, les silicates, les métaux, etc., condensent, n'existent pas à l'état de vapeur. Donc ils condensent, ils forment des petits agrégats qu'on appelle des grains de poussière. Par contre, si vous allez très près du Soleil, à des distances de l'ordre de 1 centième d'unité astronomique ou même 1 dixième d'unité astronomique, les températures deviennent plus importantes, et ces grains de poussière se vaporisent. Les glaces, par contre, l'eau, etc., n'existeraient pas à l'état solide autour de l'unité astronomique. Par contre, si vous allez plus loin dans le système solaire, où il fait encore plus froid, vous trouvez des particules de gaz donc, qui ont pu se condenser, parce que là, il fait vraiment très froid. Donc ça, c'est important aussi de savoir ce que vous trouvez à quel endroit, parce que ça vous dit ce que vous allez pouvoir faire. Si vous n'avez pas de poussière, vous ne pouvez pas sédimenter la poussière. Alors, entre parenthèses, j'ai pris tous ces graphiques sur un site web là, d'un étudiant de l'Observatoire de Paris-Meudon. Je pourrais vous donner les références. Alors, une fois qu'on a sédimenté, qu'est-ce qui se passe? Alors là, autant vous dire, on ne sait pas réellement. Enfin, on sait à peu près comment ça doit se passer, mais on n'arrive pas réellement à faire en sorte que ça marche. Une fois que vous avez cette couche de poussière, on a pensé pendant quelques temps, il y a encore pas mal de gens qu'ils disent que cette couche de poussière va devenir suffisamment dense pour qu'elle puisse se fragmenter, former des grumeaux qui vont continuer à grossir pour former des objets de taille plus importante. Bon, en fait, ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on pense à l'heure actuelle, c'est que les différents grains de poussière, dont la taille est de l'ordre du centimètre, continuent à rentrer en collision les uns avec les autres pour former des objets de plus en plus gros. Alors, pourquoi on connaît très mal cette phase? C'est que ça dépend extraordinairement des propriétés des grains. Est-ce que quand deux grains rentrent en collision, est-ce qu'ils restent ensemble? Ou est-ce qu'il se brise? Ça dépend des vitesses relatives, ça dépend de tout un tas de choses. Ça dépend aussi du degré de turbulence de votre disque. Si vous avez de la turbulence dans le disque, vous allez avoir des mouvements rapides, les vitesses de collision vont être importantes, donc le résultat risque d'être très différent de ce que vous auriez dans un disque non turbulent. Donc ça, ce sont des choses qu'on connaît mal. Ce qu'on sait, c'est que ce qui régit la physique de ce processus jusqu'à ce que les corps qu'on forme aient une taille de l'ordre du kilomètre, c'est à la fois des effets gravitationnels, et des effets d'interaction avec le gaz. Si vous mettez des grains de poussière dans l'air, ils ne sont pas sensibles qu'à la gravité, évidemment. Ils sont sensibles aussi au frottement avec le gaz. C'est exactement pareil ici. Tant que les grains sont petits, ils subissent le frottement du gaz. Ça n'est que quand ils ont des tailles de l'ordre du kilomètre À ce moment-là, on les appelle des planétésimaux, c'est aussi des astéroïdes. C'est à ce moment-là que les forces gravitationnelles dominent. Alors, le problème aussi pour passer de grains dont la taille est de l'ordre du centimètre à des corps dont la taille est de l'ordre du kilomètre, c'est qu'à cause des frottements avec le gaz, ils ont tendance à perdre de l'énergie et à tomber sur l'étoile. Et ils tombent très rapidement. Donc il faut se dépêcher. Si vous voulez les faire passer du centimètre au kilomètre, vous avez intérêt à faire vite. Et tout ça, ce sont des choses qu'on ne sait pas bien faire. Alors, une fois qu'ils ont une taille de l'ordre du kilomètre, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on continue à avoir des collisions. Mais là, on sait mieux faire parce qu'il n'y a plus que de la gravité. Alors ça, par exemple, c'est une simulation numérique où vous voyez un ensemble de corps dont la taille est de l'ordre du kilomètre. Le fait qu'ils soient dans un anneau comme ça, c'est simplement parce que c'est plus facile à faire que des simulations numériques sur des échelles beaucoup plus importantes. Et puis, vous laissez évoluer votre système. On a souvent recours à ce genre de choses dans l'astrophysique, hein, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire d'expérimentation. Donc, on utilise les ordinateurs, comme d'autres utilisent des expériences de laboratoire. On connaît les équations qui régissent l'évolution de ces systèmes, donc on les code, et puis on laisse la chose évoluer. Et bien voilà, on laisse la chose évoluer. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a des corps qui grossissent au détriment des autres. Ils mangent tout. Ils mangent tout sur leur passage, ils deviennent de plus en plus gros. Puis c'est instable, évidemment. Plus ils sont gros, plus ils mangent les petits. Donc c'est un processus qui est instable. Et vous aboutissez avec des corps relativement importants. Alors, les échelles de temps, c'est un problème aussi. Si vous voulez former la Terre par ces mécanismes, on sait que les disques disparaissent au bout de quelques millions d'années. Donc évidemment, il faut former les planètes en quelques millions d'années au plus. Or, c'est très difficile, en fait. Pour arriver à former le corps de Jupiter en un temps qui est de l'ordre de quelques millions d'années, il faut mettre beaucoup de masse dans le disque. On est obligé d'avoir un disque qui est beaucoup plus massif que ce que donnaient les modèles il y a une vingtaine d'années à peu près. Donc, on a du mal à former des planètes en un temps qui est celui de la durée de vie des disques. Donc, autant vous dire qu'il y a tout un tas de problèmes liés à la formation des planètes qu'on connaît, qu'on n'a pas encore résolus. Alors, ensuite, qu'est-ce qui fait que certaines planètes se retrouvent avec une enveloppe de gaz très massive, alors que d'autres planètes n'ont qu'une toute petite enveloppe de gaz ? La Terre, elle a une atmosphère qui est toute petite en masse, ça ne représente rien. Par contre, Jupiter fait à peu près 300 masses terrestres, et on sait que l'essentiel de la masse est du gaz. On connaît la densité de Jupiter, l'essentiel de la masse de Jupiter est sous forme de gaz. Ça veut dire que si on a formé un cœur planétaire avec cette méthode-là, il a encore fallu que le cœur soit capable d'accréter beaucoup de gaz. Qu'est-ce qui fait que dans certains cas, il accrète du gaz et que dans d'autres cas, il n'accrète pas de gaz ? Alors, ça me ferait rentrer dans des discussions un petit peu techniques. En fait, plus le cœur est massif et plus ça va être facile d'empiler beaucoup de gaz. Ça va être facile parce que, si vous voulez, une fois que vous avez attiré un peu de gaz dans l'atmosphère, à la surface de votre cœur, ce qui empêche le cœur de se contracter, ce sont les forces de pression à la base de l'atmosphère, toujours les forces de pression. Et les forces de pression, elles viennent d'où ? Pour avoir de la pression, il faut chauffer. Vous chauffez comment ? Vous chauffez parce que vous continuez à accréter des particules de poussière qui viennent d'un peu partout dans votre nébuleuse. Ces particules de poussière rentrent en collision avec le cœur planétaire, dissipent de l'énergie qui chauffe la base de l'atmosphère, et ça empêche l'atmosphère de se contracter. Mais si vous avez un cœur qui devient relativement gros, vous n'arrivez plus à supporter l'atmosphère contre sa contraction. Et là, elle se contracte. Si elle se contracte, elle libère de la place à la surface d'une certaine manière. Et vous pouvez attirer plus de gaz. Et plus vous attirez du gaz, et plus vous allez en attirer. D'accord ? Alors, la masse critique, il y a une masse critique au-delà de laquelle vous ne pouvez plus supporter votre atmosphère contre la contraction gravitationnelle. Cette masse critique, dans les conditions dont on pense qu'elles étaient celles de la nébuleuse solaire à la position de Jupiter, c'est à peu près 13 masses terrestres. Donc, on pense que Jupiter et Saturne ont un cœur de l'ordre de 13 masses terrestres, qui est la masse critique qu'il faut atteindre pour pouvoir empiler beaucoup de gaz à la surface. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, en fait, pour Jupiter, on ne sait pas. On sait que Jupiter ne peut pas avoir un cœur d'une masse supérieure à 13 masses terrestres, ou 15 masses terrestres, mais on ne sait pas si Jupiter a un cœur du tout. Par contre, si vous regardez la composition des planètes qui sont encore plus loin. Donc Neptune et Uranus. Uranus et Neptune, plutôt. Donc la masse de Jupiter, c'est à peu près 300 masses terrestres. On pense qu'il y a un cœur d'à peu près 15 masses terrestres. La masse de Saturne, c'est à peu près 100 masses terrestres. Et si vous regardez les deux planètes extérieures, Uranus et Neptune, elles ont des masses qui sont entre 14 et 20 ou 14 et 17, je ne sais plus exactement, masses terrestres. Et elles ont des densités qui sont relativement importantes. Donc elles ont des enveloppes de gaz qui ne sont pas négligeables, mais malgré tout qui sont beaucoup moins importantes que celles de Saturne et Jupiter. Donc ici, la masse critique n'a peut-être pas été tout à fait atteinte, ou alors elle a été atteinte à un moment où il n'y avait plus de gaz autour. Donc les observations ne sont pas complètement en désaccord avec ce processus de formation des planètes. Alors le problème quand même, le gros problème qu'on a, c'est qu'avec ce mécanisme-là, on forme des planètes où il y a des poussières. Et il n'y a pas de poussière à 0,05 unité astronomique. Il n'y a pas de poussière à l'endroit où se trouve Pégase 51. Donc Pégase 51 n'a pas pu se former où on la trouve aujourd'hui. Et si elle n'a pas pu se former là, il a bien fallu qu'on l'y amène. C'est pour ça que j'ai donné le titre « Planète errante » à cet exposé. Les planètes bougent. Elles ne se forment pas à l'endroit où on les trouve. Alors, quels sont les mécanismes qui font que les planètes bougent? Alors là, ça devient réellement complexe, mais on peut comprendre plus ou moins avec les mains. En fait, il se passe dans les disques un peu la même chose que ce qui se passe dans le système Terre-Lune. Vous savez peut-être que la Terre ralentit et que la Lune s'éloigne. Alors, pourquoi? Si vous regardez la déformation qui est causée sur la Terre par la Lune, vous avez la Terre ici, vous avez la Lune ici, vous regardez le plan orbital ici, hein, donc vous voyez tout par-dessus. La Lune déforme la Terre, il y a une sorte de, comment on dit, bulge, un renflement. Alors vous avez un renflement donc. Le fait c'est que la Terre tourne sur elle-même, plus vite que la Lune ne tourne autour de la Terre. Hein, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, la Lune en un mois. Donc, ça va se déplacer plus vite que la Lune. Donc, vous allez vous retrouver dans une situation où le renflement va être ici et la Lune va être derrière. Et qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Vous avez toujours l'attraction gravitationnelle de la Lune qui agit, vous avez un couple gravitationnel qui tend à ramener le renflement selon cette ligne-là. Ce faisant, ça ralentit la Terre. Si la Terre ralentit, elle perd du moment cinétique. Le moment cinétique pour le système est conservé. Où il va? Dans la Lune. Ça ne va pas faire tourner la Lune plus vite, parce que la Lune a une inertie qui est tellement faible, de toute façon, que même si vous prenez un éléphant et une fourmi qui sont en rotation, vous mettez tout le moment cinétique de la fourmi dans l'éléphant, ça ne va pas réellement le faire avancer plus vite. Là, c'est pareil. Donc vous ne le mettez pas dans le mouvement de rotation de la Lune sur elle-même, vous le mettez dans le mouvement orbital de la Lune. C'est là que vous avez un réservoir de moment cinétique. Or, le moment cinétique dans des mouvements keplériens comme celui-ci, il augmente quand vous vous éloignez. Quand la distance entre les deux astres augmente, le moment cinétique augmente. Donc si le moment cinétique est transféré vers le mouvement orbital, ça veut dire que la Lune s'éloigne. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet de marée, mais ce n'est certainement pas uniquement dans le système solaire qu'on trouve ce genre de choses. Alors on trouve ça dans les disques dans lesquels on forme des planètes. En fait, ce qui se passe dans un disque dans lequel vous formez une planète, vous avez le disque, vous avez l'étoile, et vous avez la planète. Si vous regardez ce qui se passe ici, vous avez à la fois la force gravitationnelle du Soleil et la force gravitationnelle de la planète. C'est exactement pareil qu'à la surface de la Terre. Vous avez la force gravitationnelle de la Terre et vous avez la force gravitationnelle de la Lune. Donc on parle ici aussi de force de marée. L'interaction entre la planète et le gaz environnement, c'est aussi une interaction de marée. Alors dans ce disque, vous avez du gaz tout autour. Vous avez un mouvement dit keplérien ici, c'est-à-dire que plus vous vous éloignez, moins vous tournez vite. Ce sont les lois de Kepler, vous compensez la gravité par la force centrifuge. Donc plus vous êtes loin, moins vous tournez vite. Ça veut dire que le gaz qui est ici tourne plus vite que la planète. Mais s'il tourne plus vite que la planète, ça veut dire que l'interaction gravitationnelle, elle va résulter en un transfert de moment cinétique du gaz vers la planète. le moment cinétique va toujours celui qui tourne le plus vite vers celui qui tourne le moins vite. Exactement pour la raison que je viens d'expliquer ici. C'est la même physique. Pareil, c'est des ondes ici qui sont excitées, qui transportent du moment cinétique et qui agissent de la même façon. Donc vous allez transporter du moment cinétique du gaz vers la planète. Si la planète gagne du moment cinétique, elle s'en va. Elle va aller sur des orbites qui ont un moment cinétique plus important. Donc elle est poussée vers l'extérieur, de la même manière que la Lune était poussée vers l'extérieur par la Terre. Et le gaz, lui, au contraire, perd du moment cinétique, donc il tombe vers l'intérieur. Maintenant, regardons l'interaction entre la planète et la partie extérieure du disque. Ben, c'est exactement l'inverse. Le gaz ici tourne moins vite, donc il va prendre du moment angulaire, du moment cinétique, à la planète. La planète va perdre du moment cinétique, elle va être poussée vers l'intérieur, le gaz va être poussé vers l'extérieur. Donc ce que vous voyez ici, qui est complètement contraire à l'intuition, c'est que le gaz, de part et d'autre de la planète, est poussé. La planète fait le vide. D'accord ? Ça, c'est complètement contraire à l'intuition. Pourquoi ? Parce que malgré tout, c'est de la gravité quand même. On a une planète, on se dit, force l'attraction gravitationnelle, j'attrape tout ce qui passe. Le fait est qu'on a de la rotation ici. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, vous me direz, la planète, elle est poussée vers l'intérieur parce qu'elle est à l'extérieur. Elle est poussée vers l'extérieur parce qu'elle est à l'intérieur. Si tout le monde pousse de la même manière, on ne va pas bien loin. Alors, en fait, ces calculs-là ont été faits il y a une vingtaine d'années. Et ceux qui avaient fait ces calculs avaient dit, bah oui, justement, le fait qu'il y en ait un qui soit plus important que l'autre dépend de la structure du disque. Et comme on ne sait pas grand-chose sur la structure du disque, c'est peut-être pas très approprié de faire des digressions sur le sens de la migration. Et puis en plus, c'est un effet du second ordre. Hein. On prend l'interaction ici, on soustrait l'interaction ici, c'est petit. Ben, en fait, pas du tout. D'abord, c'est pas vrai que ça dépend tant que ça de la structure. Donc ça a été montré dans un article publié en 1986. L'interaction avec l'extérieur est toujours plus importante que l'interaction avec l'intérieur. Et ça ne dépend pas des caractéristiques de la nébuleuse, ça dépend simplement de la géométrie du problème, du fait que ce soit keplérien. Alors les raisons pour lesquelles c'est le cas sont extrêmement techniques, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut que vous me croyez sur parole, mais le fait est que le couple gravitationnel exercé par les parties externes est plus important que le couple gravitationnel exercé par les parties internes. Donc la planète file vers l'intérieur. Alors, si elle file vers l'intérieur, ça veut dire qu'elle perd du moment cinétique et que le moment cinétique va dans le gaz. Mais supposons que la planète soit petite, un dixième de masse terrestre à peu près, et que vous ayez une grande quantité de gaz autour. N'oubliez pas que vous voulez former une planète géante. Il vous faut un réservoir de gaz autour de la planète. Donc, tout au début, quand ça se produit, vous avez une petite masse dans la planète et vous avez beaucoup de gaz autour. La planète donne son moment cinétique au gaz. Mais encore une fois, c'est comme l'histoire de l'éléphant et de la fourmi. Le gaz, ici, il tourne à peu près à la même vitesse que la planète. Il prend le moment cinétique de la planète. Mais comme il a beaucoup de masse, ça ne fait pas une grosse différence pour lui. Il voit à peine la différence. Hein, c'est comme le moment cinétique de la fourmi que vous mettez dans l'éléphant. L'éléphant ne se rend pas bien compte en fait, de ce qui lui arrive. Donc le gaz ne bouge pas. Le gaz ne bouge pas, mais la planète, elle, continue à tomber. Donc la planète se déplace par rapport au gaz. Et c'est exactement comme un bateau. C'est exactement comme un bateau sur la mer. Vous avez votre bateau, alors là, il a fait un virage, ça ne m'arrange pas, mais vous avez votre bateau qui avance sur l'eau, il émet des ondes de part et d'autre de sa trajectoire, ce sont ces ondes qui véhiculent le moment cinétique, ce sont ces ondes qui vont transférer le moment cinétique du mouvement orbital de la planète vers le mouvement orbital dans le disque. Et une fois que le bateau est passé, la mer reprend son aspect normal. Rien n'a bougé. C'est exactement ça qui se passe. Sauf qu'ici, comme on est dans un disque en rotation, les ondes, vous allez avoir en fait une onde qui va partir comme ceci et une autre qui va partir vers l'avant. Parce que les deux parties du disque, par rapport à la planète, si vous êtes assis sur la planète, vous voyez une partie du disque qui va comme ceci et l'autre partie du disque qui va comme ça. Mais à part ça, c'est la même chose. Alors, vous bougez. Le problème, c'est que vous bougez très vite. Si vous calculez le taux de migration, vous vous rendez compte que pour un dixième de masse terrestre à une unité astronomique, il vous faut simplement 100 000 ans pour être expédié sur l'étoile. Quant à la Terre, il lui faut 10 000 ans. Alors ça, évidemment, ça nous pose un problème parce qu'on est là et que d'après cette théorie, on ne devra pas être là. Donc ça, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors, si par contre la planète ici est très massive, la masse de gaz autour est faible, ben, si vous mettez le moment cinétique de la planète dans le gaz, là, le gaz, il va voir la différence. Il a très peu de masse, il a très peu d'inertie. Donc, il va falloir que sa vitesse soit réellement beaucoup perturbée pour qu'il puisse absorber le moment cinétique de la planète. Donc, le gaz va réellement être repoussé de l'orbite. Donc, vous allez vous retrouver ici avec un no man's land de part et d'autre de la planète. Mais en fait, le disque, bon, j'en ai pas réellement parlé, mais le disque est en mouvement vers l'intérieur. Le disque est accrété par l'étoile, il glisse lentement vers l'intérieur de la planète. En glissant, il pousse la planète dans son sillon. Elle est verrouillée, la planète, dans son sillon. L'ensemble bouge, la planète tombe aussi vers l'intérieur. Et là aussi, les temps de migration sont relativement courts. Hein, ce sont les temps d'évolution du disque qui peuvent être de l'ordre de 100 000 ans, par exemple, à 5 unités astronomiques. Donc ça, c'est ce qu'on avait proposé pour expliquer Pégase 51 et toutes ses consœurs qui sont sur des orbites si serrées. Alors, ça peut vous paraître une jolie histoire, tout ça, mais si vous regardez des simulations numériques, c'est bien ce qu'on observe. Donc ça, c'est, encore une fois, c'est des simulations numériques. Vous prenez un disque dans lequel il n'y a rien, vous mettez une planète, et puis vous la laissez vivre sa vie. Ben, vous pouvez voir ici que vous avez des structures qui apparaissent. Le code de couleur ici est tel que plus c'est orange, plus c'est lumineux, plus vous avez de masse. Noir, vous n'avez rien. Vous avez bien ici un sillon qui s'est formé autour de la planète. Donc ça, ce sont des choses qu'on comprend relativement bien, depuis d'ailleurs 20 ans, et qui sont sans doute responsables pour la présence de planètes très proches de leur étoile. Ici, vous avez une vue. Alors ça, ce n'est pas une vue d'artiste, hein, c'est aussi une simulation numérique. Alors à part les petites étoiles, évidemment, qui ont été rajoutées, et la planète aussi a été rajoutée, mais à part ça, ça décrit réellement la densité dans votre disque. Donc vous avez réellement un sillon autour de la planète, et puis après, vous avez le disque dans lequel vous avez ces ondes qui se propagent. Alors, toute cette théorie, je vous le disais, en fait, on la connaissait, et elle a permis en particulier d'expliquer la structure des anneaux de planètes. Et en particulier, elle a prédit un certain nombre de satellites de Saturne. Vous avez ici des images qui ont été prises par les sondes voyageurs. Ce que vous voyez là, ce sont les anneaux de Saturne. Donc là, vous avez les anneaux A et B. Vous avez la division de Cassini. Ici, vous avez un anneau dont vous voyez qu'il est confiné par deux satellites. Et c'est exactement la même physique qui est à l'œuvre ici. Vous créez comme ça des sillons, des gaps, de la même façon que les planètes dans les disques. C'est exactement la même chose. Et ici, vous avez quelque chose d'encore plus extraordinaire. Là, vous avez à peu près 400 km, hein, c'est la distance entre ces deux structures. Ce que vous voyez ici, c'est une onde, ça c'est une onde de densité, ce sont ces ondes acoustiques modifiées par la rotation, hein, qui véhiculent le moment cinétique. Et là, vous avez une onde qu'on appelle une onde de gauchissement qui est due au fait que le plan du disque n'est pas dans le plan orbital. C'est MIMAS ici, c'est le satellite, c'est MIMAS qui crée cette structure. Donc en fait, vous avez une oscillation verticale du disque, regardez, qui projette une ombre sur l'anneau. Donc ça, c'est exactement ce qui avait été prédit avant que la sonde voyageur soit envoyée. Et on a pu vérifier que la théorie était complètement bonne. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi elle n'a pas été poussée plus loin jusqu'à faire des prédictions pour les planètes. Alors le problème, malgré tout, la question que vous vous posez peut-être après tout ce que je viens de raconter, c'est que ben, maintenant, on sait très bien faire bouger les planètes, on sait très bien les envoyer sur les étoiles, mais on ne comprend plus du tout pourquoi certaines sont restées où elles sont. On ne comprend pas pourquoi Jupiter est à 5 unités astronomiques, on ne comprend pas pourquoi la Terre est à 1 unité astronomique, on ne comprend pas pourquoi on trouve des planètes partout, à 0,1, 0,5, 1 unité astronomique. Alors en fait, bon, pour des raisons techniques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, s'il n'y avait que la migration qui fait intervenir le sillon ici, on arriverait à faire des scénarios pour expliquer la différence entre tous les systèmes. Le problème, le gros problème qu'on a, c'est la migration des petites planètes, des cœurs planétaires. Et on ne sait pas les arrêter. Il n'y a pas aujourd'hui de théorie qui permette d'expliquer pourquoi on arrête la migration des petits cœurs. Alors, juste pour terminer, je dirais que une chose qu'on ne reproduit absolument pas avec tous ces modèles, puisqu'il ne faut quand même pas parler que de ceux qui marchent, c'est l'excentricité des planètes. Tous ces modèles qui font intervenir la formation des planètes dans des disques, les effets de marée entre le disque et la planète, vous donnent des orbites circulaires. Alors ça, c'est un gros problème. Alors l'une des questions qu'on peut se poser, c'est de se dire, mais malgré tout, mais qu'est-ce que c'est qu'une planète ? Est-ce que toutes ces planètes qu'on observe se sont formées dans le disque ? elles sont très différentes des planètes du système solaire. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas songer à un mécanisme différent? Alors, ça, c'est une chose que j'ai regardée récemment avec un collègue. L'idée, c'est de se dire, quand vous formez votre étoile, vous avez peut-être tout un tas de petits fragments. Vous formez non seulement l'étoile, mais vous avez tout un tas de petits fragments autour de l'étoile qui vont également se former et qui vont donner des planètes. On arrive à fragmenter comme ça jusqu'à des masses de l'ordre de 7 masses de Jupiter à peu près. Le problème, c'est de retrouver une seule planète ou deux planètes proches de l'étoile et de se débarrasser de toutes les autres. En fait, la nature fait ça pour nous de façon relativement... Je terminerai avec ça. La nature fait ça pour vous de façon relativement raisonnable. Ici, par exemple, ce que je vous montre, c'est 100 planètes. Vous mettez 100 planètes, comme ça, sur des orbites autour d'une étoile centrale, et vous laissez le système évoluer, et vous regardez ce que vous obtenez à la fin. Alors, je ne rentre pas dans les détails de ces schémas, mais ce que vous obtenez à la fin, c'est simplement deux planètes. 90% des planètes ici ont été éjectées. Elles sont sorties du système. Elles ne sont même plus en orbite autour de l'étoile. C'est dû aux rencontres gravitationnelles entre les différents éléments. 10% à peu près des planètes ont été mangées par l'étoile. Et toute l'énergie de liaison gravitationnelle se retrouve simplement dans deux planètes, dont une s'est rapprochée beaucoup. Ici, si vous commencez avec un nuage qui fait à peu près 100 unités astronomiques, la planète qui se retrouve à l'intérieur est à 2 unités astronomiques. Et elle a une excentricité d'à peu près 0,9. Donc avec ce genre de scénario, vous arrivez à reproduire les observations de planètes très massives sur des orbites très excentriques. Alors évidemment, ça ne marche pas pour tout. Ça ne marche pas pour les planètes du système solaire, parce que vous ne vous retrouvez pas avec des planètes dans un plan. Ça ne marche pas non plus avec des planètes qui ont été découvertes récemment. Je vous ai parlé d'un système où vous aviez deux planètes. Les deux planètes sont en résonance, c'est-à-dire que quand l'une tourne 3 fois autour du Soleil, enfin autour de son étoile, l'autre tourne 2 fois. Et ça, ce sont des phénomènes que vous n'obtenez pas avec ce genre de modèle. Donc voilà, bah écoutez, je crois que je vais vous remercier pour votre patience. Et je vais m'arrêter là.
Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Je présume que vous avez sûrement des questions à poser, puisque les astronomes montrent qu'ils ont quelques réponses, mais beaucoup de questions, beaucoup de questionnements encore en suspens. Donc, posez, si vous avez une question, je vous levez la main et je vous donne le micro.
Je vous remercie, je vous félicite de votre exposé tout à fait remarquable. Un peu trop rapide, il aurait mérité quelques heures supplémentaires, mais vous ne l'auriez peut-être pas supporté avec la fatigue, c'est évident.
C'est peut-être vous qui n'auriez pas supporté.
Moi, si, avec quelques entractes de temps à autre, et puis un buffet dînatoire offert aimablement par l'Institut d'astrophysique, évidemment.
C'est de la recherche publique, bon, hein, ici.
Cela étant... Je pense à un poète qui a écrit une pièce de théâtre s'appelant « La vie est un songe ». Et puisque vous vous étonnez que la Terre soit encore là, peut-être sommes-nous des rêves, des songes. Bon, ce n'est pas la question que je voulais me permettre de vous poser. L'une des questions que je voulais me permettre de vous poser, c'est la suivante. Vous avez évoqué la présence d'un nuage interstellaire pour la formation des étoiles. Pouvez-vous me dire si le nuage interstellaire est une partie infime d'une nébuleuse? Sinon, qu'est-ce qu'un nuage interstellaire?
Un nuage interstellaire, c'est un ensemble dans lequel vous avez des molécules de gaz et des grains de poussière. Alors, vous avez tout un tas de sous-structures à l'intérieur de ces nuages, effectivement. Une nébuleuse, ce qu'on appelle une nébuleuse, c'est une structure dans laquelle vous avez du gaz qui est capable, qui est photo-ionisé par des sources chaudes situées aux alentours. Ça, c'est une nébuleuse en émission, qui émet de la lumière. Et puis, vous avez des nébuleuses par réflexion, c'est-à-dire qui sont entourées par des étoiles qui ne sont pas suffisamment chaudes pour photo-ioniser le gaz, mais qui, malgré tout, émettent un rayonnement qui peut être réfléchi par la poussière. Donc, c'est ça, simplement, qu'on appelle des nébuleuses. C'est un terme un peu générique pour désigner toute ou partie d'un nuage interstellaire. Alors, dans un nuage interstellaire, vous pouvez aussi avoir des nuages moléculaires que vous n'allez pas voir.
Interstellaire ou intergalactique?
Non, interstellaire. Ici, je m'intéresse à des structures qui sont dans la galaxie. Intergalactique, ce serait des nuages qui seraient entre deux galaxies différentes. Je ne travaille pas à ces échelles-là. Il y a peut-être des choses qui se passent aussi, j'en sais rien, mais ce n'est pas du tout ce que j'adresse là.
D'autres questions? Oui.
Oui, tout à l'heure, vous avez dit que, un peu dans une lutte entre planètes, il y avait des planètes qui étaient expulsées du système. Alors, que deviennent-elles?
Alors, c'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée, parce que j'ai oublié de le mentionner. Justement, l'une des raisons pour lesquelles, en fait, on a regardé ce modèle, c'est que depuis à peu près un an et demi, il y a des équipes qui disent observer des objets, ce qu'on appelle free-floating objects, c'est-à-dire des objets qui se baladent dans l'espace, qui sont attachés à rien, qui flottent dans l'espace, qui flottent librement. Et on ne sait pas très bien comment ces objets ont pu se retrouver là, donc on dit en général qu'ils ont été éjectés. Si vous avez un système qui est lié gravitationnellement, vous avez une étoile qui passe par là, par exemple, ça va éjecter un certain nombre de choses. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. D'après ce qu'ils disent.
J'ai observé dans Orion, je crois, non?
Dans Orion, oui, c'est les. C'est, je ne sais plus comment ils s'appellent, les Espagnols. Il y a plusieurs équipes qui ont parlé de ces observations. Alors, ce qu'ils ont dit, en tout cas la dernière fois, j'en ai entendu parler, c'est que pour une planète que vous observez autour d'une étoile, vous allez en trouver 10 qui sont comme ça dans l'espace. Ça veut dire que dans notre scénario, il suffit qu'on commence avec. C'est 10 ou 100, je ne me souviens plus. Bah, toujours est-il que nous, on peut adapter, parce que si on veut avoir 100 planètes éjectées, on en met 100 au démarrage, on en garde 2, il y en a 90 à peu près qui sont éjectées. Donc on peut vous donner ce que vous voulez en termes de proportion.
Et si elles sont éjectées, elles peuvent retomber par exemple?
Non, elles ne sont plus liées gravitationnellement. Elles ont une énergie qui est positive, elles ne sont plus liées gravitationnellement, elles sont sur des orbites paraboliques, elles ne peuvent pas revenir.
Mais dans un autre système?
Alors, elles peuvent être capturées, mais la probabilité pour qu'elles soient capturées n'est quand même pas énorme. Hein. Puis c'est des systèmes qui sont jeunes, hein. on a un cliché hein, du système au moment où on l'observe, on ne sait pas ce que ces objets vont devenir, ils peuvent évoluer, effectivement, se retrouver ailleurs.
Oui, bonsoir. Donc je voulais revenir un peu sur la formation du système solaire. Donc on a vu qu'il y avait effectivement deux familles, d'une part les planètes intérieures, les planètes telluriques, et dans le cas de notre système solaire aussi les planètes géantes, les planètes gazeuses. Vous avez parlé effectivement pour essayer d'interpréter cette différenciation d'une masse critique au niveau du noyau à l'intérieur de la planète qui était de l'ordre de 13 à 14 masses terrestres. Mais est-ce qu'on n'a pas eu aussi au sein de la nébuleuse protosolaire une ségrégation des matériaux qui ont servi justement à la formation des planètes avec au centre dans les régions intérieures plutôt la présence de poussière qui même si elle représente que 1% de la masse du nuage protosolaire, bon, c'est quand même faible, mais bon. Donc des poussières au centre et plutôt du gaz qui se serait rassemblé dans les régions externes. On parle aussi notamment d'une limite des glaces pour expliquer un peu cette différenciation entre donc, planète tellurique et planète gazeuse. Alors est-ce que ça a pu jouer au sein de la...
La différenciation, elle est essentiellement par rapport à la condensation, la forme sous laquelle vous trouvez les éléments. Du gaz, il y en a partout. Quand je dis que vous avez 1% de poussière, c'est ce qu'on observe dans le milieu interstellaire, c'est ce que vous retrouvez dans les disques. Vous avez autant de gaz dans les parties externes que dans les parties internes, pour ce qui concerne, enfin autant de gaz, il y a des, selon les disques, les modèles de disques, vous avez des densités plus ou moins différentes. Mais vous avez à peu près du gaz partout, et la masse de gaz à un endroit donné dans la nébuleuse est à peu près 100 fois celle des poussières. Par contre, effectivement, le type de poussière que vous trouvez dépend de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes à une unité astronomique, vous allez avoir condenser les silicates, les métaux, les choses comme ça. Vous n'allez pas condenser les glaces, vous n'allez pas condenser l'eau, le méthane ou des choses de ce genre. Il faudra aller beaucoup plus loin, à l'endroit effectivement où se trouvent les planètes géantes pour trouver des glaces. Mais vous trouvez des glaces dans ces planètes géantes. Vous savez qu'elles sont faites plus ou moins de glace. Les comètes, c'est pareil, hein, elles sont situées encore plus loin et vous observez qu'elles sont faites de glace, alors qu'il n'y a pas de glace sur les planètes telluriques. Donc effectivement, ce sont des choses que vous retrouvez. Il y a tout un tas de contraintes hein, qui viennent de l'étude des éléments dans la nébuleuse. Je ne suis pas du tout expert de ce domaine-là. C'est plutôt, ça relève de la cosmochimie et malheureusement, il n'y a pas tant d'échanges entre les deux communautés. Mais il y a effectivement un certain nombre de contraintes qui viennent de la différenciation des matériaux.
Encore une question? Oui.
Vous nous aviez dit tout à l'heure que les planètes qu'on avait trouvées étaient à environ à 5% de la distance Terre-Jupiter. À cette distance-là d'étoiles-mères, les effets de marée deviennent énormes. Est-ce qu'il est possible d'imaginer, malgré tout, que les planètes soient telluriques, qu'elles ne soient pas en dessous de la distance de roche et qu'elles ne soient pas disloquées par les effets de marée qui deviennent gigantesques si on est aussi près?
Alors, une planète gazeuse résiste. Ça a été calculé, effectivement, c'est l'une des toutes premières questions qu'on s'est posées. Vous arrivez à dépasser le lobe de roche, malgré tout. Ce qui est possible, par contre, c'est que les planètes qui sont arrivées là étaient beaucoup plus grosses que ce qu'elles sont à l'heure actuelle. Et que du fait du dépassement du lobe de roche, vous soyez retrouvé avec une perte de masse assez importante. Donc, effectivement, jusqu'à l'observation du transit, on ne savait pas si ces planètes étaient plutôt rocheuses ou plutôt gazeuses. Mais d'avoir pu mesurer la dimension et donc la densité de cette planète nous dit que dans le cas de celle qui a un transit et qui est proche, hein, elle est à 0,04 ou quelque chose comme ça, c'est une planète gazeuse, il n'y a aucun doute. Mais elle était effectivement peut-être beaucoup plus importante. Les effets de marée sont très importants à ces distances-là, c'est pour ça que toutes les planètes sont circulaires à ces distances-là.
Pour ça que toutes les planètes sont...
sont sur des orbites circulaires. Elles ont été circularisées par effet de marée.
Il n'y a plus de questions ? Si ?
Une question d'un néophyte. Et vous avez montré une très belle image sur les éjections tout à l'heure. Et il y avait une dimension d'une unité astronomique. Et effectivement, l'éjection paraissait énorme.
C'est plus qu'une unité astronomique. Hein.
Oui, bien. Oui, oui. Mais c'était la légende hein, qui était... Mais vous n'avez pas parlé du temps. Combien de temps supposait cette émission, cette éjection?
Alors, vous connaissez à peu près la vitesse d'émission, la vitesse d'éjection, vous regardez la distance sur laquelle vous l'observez, ça vous donne une idée du temps pendant lequel l'éjection a duré. C'est un temps de l'ordre de... C'est des éjections que vous observez quand les systèmes sont encore des proto-étoiles avec pas mal de gaz autour, c'est de l'ordre de 100 000 ans à peu près. C'est des phénomènes qui se produisent sur des durées de l'ordre de 100 000 ans. C'est relativement court à l'échelle de la formation des planètes.
La masse critique des planètes, est-ce que vous pourriez réexpliquer un petit peu?
Écoutez, ça me ferait franchement rentrer dans des considérations techniques. Je ne suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. S'il y a un consensus, je le fais. Sans ça, on peut peut-être en reparler plutôt après. C'est vraiment technique, c'est les différentes sources d'énergie qui sont en jeu et qui, selon que l'une... Bon, enfin, je préfère vous l'expliquer plutôt après si tout le monde n'est pas intéressé par les détails techniques.
Demander si toutes les étoiles, les 50 étoiles en fait, autour desquelles on a trouvé des planètes avaient des masses équivalentes ou avec des grosses différences de masse.
Il y a des différences de masse, alors
y a... ça c'est pour rebondir sur la question, pourquoi est-ce qu'on n'en tient pas compte dans l'approximation de la distance, et peut-être donner une distance relative pour comparer ce qui est comparable par rapport au système solaire. Pourtant on dit qu'il y a la Terre est à une unité astronomique par rapport à la taille du Soleil, mais est-ce que les autres, on a fait cette étude aussi de replacer par rapport à la de l'étoile.
À toutes les étoiles.
Est-ce que ça peut jouer sur une...
Oui, c'est quelque chose que j'aurais dû préciser. Toutes les étoiles autour desquelles on a détecté des planètes sont des étoiles de type solaire. Elles sont comme notre Soleil. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on s'attendait à trouver des planètes, d'une part. D'autre part, il nous faut des étoiles qui soient relativement calmes en surface, qui n'aient pas une activité trop importante. Sans ça, on ne détecterait pas les respectra. Enfin,
c'est des étoiles similaires au Soleil, quoi. Voilà. De taille similaire. D'accord.
Ah oui.
Merci bien.
J'ajouterais qu'il y a quand même eu, tout au début, il y a de ça longtemps, enfin longtemps, c'était quand il y a une dizaine d'années, enfin c'était en tout cas avant les planètes ces planètes extrasolaires, on a détecté trois planètes autour de pulsars, des masses terrestres, et même des sous-masses terrestres. Il y en a une qui fait un dixième de masse terrestre, une chose comme ça. Alors ça, c'est franchement quelque chose qu'on ne comprend pas bien, parce qu'un pulsar, c'est le produit de l'explosion d'une étoile. Hein, si vous avez une étoile relativement massif, qui évolue, qui explose, une supernova. Et le pulsar, c'est ce qui reste une fois que votre étoile a explosé. C'est très petit, c'est très compact. Ça veut dire que les planètes que vous observez autour de ce pulsar, elles se sont formées après l'explosion de la supernova. Sans ça, elles auraient été soufflées par l'explosion de la supernova. Ça veut dire que les planètes se forment de façon commune. Il n'y a rien d'extraordinaire à la formation de planètes. Si vous avez des débris autour d'un objet, vous arrivez à former des planètes. Alors bon, c'est quand même des objets qui sont extrêmement différents de ceux sur lesquels on pense pouvoir trouver la vie, mais enfin...
Est-ce que ça a été recherché par la suite? ces planètes... Autour des... Oui, les planètes autour d'autres pulsars.
Ça m'étonnerait parce que moi, j'ai entendu parler simplement de ces trois-là, donc ça fait une dizaine d'années. Je crois que les gens sont tellement excités par ces sortes de planètes extrasolaires qu'ils ne sont pas prêts d'aller investir du temps ou de l'argent.
Non, mais ce qui est étrange, c'est que ça a été démenti assez rapidement et c'est ensuite redevenu...
C'est redevenu, oui, oui.
...d'actualité.
Non, mais je pense que bon, les mesures ont l'air, c'est pas très compliqué. Hein, c'est le même genre de choses, sauf qu'au lieu de mesurer des vitesses, vous mesurez des différences, des délais entre les pulses qui vous viennent du pulsar. Quand pareil, vous avez un mouvement du pulsar autour du centre de masse, donc il est plus ou moins près de vous, il s'éloigne, il s'approche de vous. Donc les pulses qu'il émet viennent avec un certain retard. Et c'est ça qui est mesuré.
Ce qui est quand même compliqué, c'est de ne pas attribuer ces irrégularités au pulsar lui-même, parce que à la physique du pulsar lui-même. Et ça, je crois que ça a été fait, effectivement. Il est...
Alors là, tu m'en demandes trop, je ne sais pas comment...
Non, mais pendant très longtemps, enfin, dans un premier temps, les gens ont dit non, c'est un phénomène qui est intrinsèque au pulsar lui-même. Et récemment, effectivement, ça a été confirmé dans le sens de véritables planètes. Voilà, donc c'est tout à fait étonnant.
Ah, peut-être des petits hommes verts autour des pulsars.
Peut-être, oui. Oui, c'est ça. Oui. Pardon ?
On peut l'avoir.
Ah, je sais pas. Je vais poser la question à Jean Mouette. Que fait-on de l'enregistrement de cette conférence, Jean ?
On fait une copie au VHS de. On peut prêter.
Qu'on peut louer.
On peut louer, très cher. On peut prêter occasionnellement. En tout cas, on a une cassette. Voilà. Bon. Écoutez, si vous n'avez plus de questions. Vous avez une petite question ? Encore, une dernière petite question.
Je vous remercie. Jusqu'à quelle distance, aujourd'hui, a-t-on des quasi-certitudes de distance des objets que l'on observe ?
Vous voulez dire à quelle distance sont situées les étoiles autour desquelles ?
Oui.
Alors,
pas à quelle distance sont-elles situées, mais quelle est la quasi-certitude des distances ?
Ah, vous voulez dire présente. les incertitudes sur les distances ?
Oui.
Oh, je ne saurais pas vous dire, mais c'est petit. C'est, on détecte, la limite de détection à l'heure actuelle des vitesses radiales, c'est 3 mètres par seconde. Et là, il y a pas mal de mesures qui donnent des signaux qui ont quoi, 12, 13 mètres par seconde, avec donc des barres d'erreur qui sont probablement de l'ordre du pourcent, je dirais, ou quelque chose comme ça. C'est petit, les incertitudes sont faibles.
Bien, bah merci encore, Caroline.
Merci à vous.
Merci beaucoup.